Bonsoir à tous. Nous avons le plaisir ce soir d'accueillir le philosophe Rémi Brague, donc spécialiste de philosophie médiévale, arabe et juive, mais aussi de philosophie grecque. Ancien élève de la rue d'Ulm, il devient professeur à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, ainsi que dans une tout aussi noble institution outre-Rhin, la Maximilian Universität de Munich. En 2009, il devient membre de l'Académie catholique de France et est enfin élu à l'Académie des sciences morales et politiques. Donc, plutôt couronnement qu'aboutissement, car de nombreux ouvrages font suite depuis à ses ouvrages principaux, comme entre autres Europe, la voie romaine, la loi de Dieu, histoire philosophique d'une alliance, notamment en 2013 encore, le propre de l'homme sur une légitimité menacée. Donc, nous remercions grandement le DHTA pour nous avoir permis de faire cette conférence dans cette salle, et bien évidemment, grandement, Rémi Brague, pour sa présence ici ce soir. Merci beaucoup. Merci.
Écoutez, merci beaucoup. Un tout autre que moi serait ému de se retrouver dans ce lieu où il a usé ses fonds de culotte. Pas si longtemps que ça, je l'ai expliqué à certains d'entre vous, je suis de la promotion 67, et en 68 il s'est passé des choses qui ont rendu l'atmosphère peu respirable. Donc voilà, j'ai accepté la proposition du père Urfels de vous parler, et je vous dirai en fait des choses que j'ai déjà dites, ou plus exactement que j'ai déjà écrites. Ce qui fait que je préférerais même vous présenter très rapidement ce que j'ai à dire et puis qu'on passe tout de suite aux questions. Parce que les questions, là, je ne les ai pas déjà écrites. Donc, ça me serait, en ce qui me concerne, plus agréable. Alors, je ne sais pas, je vais essayer de ne pas être trop long. Et puis, on passera donc aux questions, si vous le voulez bien. Bon. Ma question, donc, y a-t-il trois monothéismes ? Ma réponse est triple, non, non et non. Et je commence donc par quelques considérations sur le mot de monothéisme, qui n'est pas du tout un mot religieux, c'est un mot philosophique. On peut le montrer si on fait l'histoire du mot, si on consulte quelques dictionnaires et si on regarde un peu l'histoire des idées. Je ne vois personne chanter « Je suis monothéiste, voilà ma gloire, mon espérance et mon soutien ». Ça ferait bizarre. Hein. C'est un cantique qui était déjà un petit peu obsolète dans ma génération. Une espèce de cantique un peu triomphaliste et très cucu, mais personne ne dira « moi, je suis monothéiste ». En revanche, le philosophe dira « ça, cette religion-là, elle est monothéiste, et puis il y en a une autre là qui est polythéiste », ou chose de ce genre-là. Les philosophes ont fait ça, finalement, assez tard. Vous avez devant vous un historien des idées à très long terme, donc pour moi, le XVIIe siècle, c'est hier. Et c'est en 1660 qu'un Anglais, toujours eux, il faut toujours se méfier de ces gens-là, un théologien platonisant de Cambridge, qui s'appelait Henry Moore, un de ces gens qu'on appelle les Caroline Divines, les théologiens de l'époque du roi Charles, donc en 1660, l'a employé pour la première fois dans une fin de classification. Et après, la carrière du mot s'accomplit chez les philosophes. Et pas chez les théologiens, même si les théologiens scolastiques ont classiquement un traité de Deo Uno, sur Dieu considéré comme un seul, abstraction faite, lorsqu'il s'agit de chrétiens, abstraction faite de la Trinité qui le constitue comme celui qu'il est. Alors là, j'ai une série d'exemples peu intéressants. Kant parle une fois du monothéisme. Il dit que c'est plutôt mieux que le polythéisme. Le texte que l'on connaît sous le nom du plus ancien système, le plus ancien programme de système de l'idéalisme allemand, un texte dont on ne sait pas très bien s'il est de Hegel, de Hölderlin ou de Schelling, qui l'ont rédigé ensemble en 1798, ou 96, je crois plutôt. Ils disent qu'il faut combiner le polythéisme de l'imagination et le monothéisme de la morale. Le théisme éthique, c'est une expression qu'on va revoir. Donc Schelling, donc un des trois, vieilli, consacre entre 1828 et 1845 six de ses leçons sur la philosophie de la mythologie au concept de monothéisme. D'ailleurs, je trouve que c'est vraiment pas idiot ce qu'il écrit là-dedans. Je me souviens d'avoir lu ça il y a quelques années avec beaucoup de plaisir. Bon, donc monothéisme, c'est un mot philosophique et ça ne fait pas très longtemps que des gens d'esprit religieux se décrivent eux-mêmes comme étant monothéistes. Par exemple, le judaïsme se désigne volontiers, depuis un petit peu plus d'un siècle, comme un monothéisme éthique. C'est une expression qui est due à un rabbin allemand qui s'appelait Léo Beck, dans un ouvrage qu'il avait intitulé bravement « L'essence du judaïsme ». C'était un peu une réponse au livre de Harnack « L'essence du christianisme ». Il a publié ça en 1905, et bon, on trouve dans cet ouvrage l'expression « monothéisme éthique ». Donc, c'est à peu près la première fois que quelqu'un dit « moi, je suis monothéiste ». Dans l'islam, on peut traduire par monothéisme une expression comme le mot que l'on traduirait littéralement par « l'affirmation que Dieu est un », « tawhid ». C'est un mot qui a pris d'ailleurs par extension presque le sens de théologie. Alors, première observation, le monothéisme, et donc dans la suite de ce que je viens de dire, le monothéisme n'a rien d'essentiellement religieux. Et ce qui le prouve, au-delà des considérations de lexicographie, d'histoire des mots, c'est que... il se peut bien, je nuancerai cette affirmation, il se peut bien qu'il existe des religions non monothéistes, mais à l'inverse, il y a des monothéismes qui ne sont pas religieux du tout. Des systèmes philosophiques dans lesquels on trouve une affirmation d'un principe que l'on n'hésite pas à appeler Dieu, dont on dit qu'il n'y en a qu'un seul, mais dont il n'est pas question de faire l'objet d'une religion. Alors, comme exemple, on peut prendre le déisme des philosophes autoproclamés des Lumières, mais dans ce cas, on pourra se dire leur monothéisme, ou leur monodéisme, n'est finalement qu'une version affadie du christianisme. Le déisme des philosophes des Lumières, on peut dire que ça serait... On pourrait dire que c'est simplement une sorte de christianisme dont il n'aurait gardé qu'un seul élément, à savoir la question du nombre des dieux. Et la réponse, il n'y en a qu'un seul. Donc on n'a peut-être pas là une sorte de monothéisme philosophique tout pur, c'est peut-être une sorte de monothéisme religieux, mais privé, qu'on aurait découpé tout autour de l'affirmation de l'unité du principe divin. En revanche, on trouve de bons exemples chez les philosophes grecs, parce que ces gens-là, on ne peut pas les soupçonner, surtout s'il s'agit de présocratiques ou de philosophes de l'époque classique, on ne peut pas les soupçonner de s'être fait influencer, s'être laissé influencer par le christianisme, ni même par le judaïsme. Alors, il y a le présocratique Xénophane de Colophon, un nom assez marrant, un nom de ville assez marrant, puisque ça signifie maintenant tout autre chose, les codicologues vous expliqueront. Le présocratique Xénophane de Colophon, qui vivait entre le 6e et le 5e siècle avant Jésus-Christ, oppose aux imaginations variées des nations qui se représentent chacune leur dieu à leur image. Les Éthiopiens se représentent un dieu noir et aux cheveux crépus. Les Thraces se représentent un dieu à la peau pâle et aux cheveux roux. Bon, bien, au-delà de cela, il y aurait, je cite, un Dieu unique, le plus grand chez les dieux et les hommes, qui n'est semblable aux mortels ni par l'apparence ni par la pensée. On a donc un monothéisme, même si le mot n'y est pas, mais un monothéisme qui n'est nullement religieux. Même chose chez Aristote, qui appelle le premier moteur immobile et unique que suppose sa physique, il l'appelle du nom de Dieu. Or, dans le passage même de la métaphysique, au livre Lambda, chapitre 7, il précise que ce Dieu est trop parfait pour connaître quoi que ce soit d'autre que lui. Donc, il ne sait même pas que nous existons, si je puis dire, et il ne peut guère écouter nos prières. Donc, comme objet d'une religion, ça ne marche pas. Donc, l'affirmation d'un Dieu unique n'est pas nécessairement un phénomène religieux. Deuxième remarque, les trois monothéismes. Quand on dit les trois monothéismes, c'est une expression que je ne supporte pas. Il y a de l'affect dans ce que je dis quand j'entends cette expression sur un média, et il est difficile de brancher une radio, une télévision sans y avoir droit lorsqu'il est question de choses religieuses. Je sors mon revolver quand ça se passe comme ça. Enfin, moi, je sors non pas mon 6 coups, mais mon 3 coups. Donc, quand on dit les trois monothéismes, l'usage de l'article défini suppose qu'il n'y en a que trois. Hein, les trois monothéismes. De même, quand on dit les trois stooges, je ne dirais pas les trois mousquetaires, parce que le cas là est un peu plus compliqué, en vertu de la loi d'Alexandre Dumas, selon laquelle n égale n plus 1. Bon, les prétendus trois monothéismes ne sont pas les premiers, puisque le premier fut sans doute, comme on sait, l'invention d'un roi d'Égypte, Amenophis IV, qui prit le nom d'Akhnaton vers 1250 avant Jésus-Christ. L'idée sous-jacente étant qu'un seul Dieu est le vrai, les autres n'en étant que des délégués. Son monothéisme n'était d'ailleurs pas absolument strict, puisqu'il admettait, disons, des divinités intermédiaires. Mais ce qui était important pour ce pharaon, c'est que ce Dieu était connu du seul pharaon, et donc le pharaon pouvait revendiquer le monopole du culte. On comprend que ça n'est pas tellement plu aux prêtres des dieux qu'ils prétendaient surclasser. On voit la dimension politique, d'ailleurs, de la chose. Les trois monothéismes en question ne sont pas les premiers, donc, mais ils ne sont pas non plus les derniers. Car la fécondité religieuse n'est pas tarie. Chez les peuples colonisés du tiers-monde, vous avez des religions comme le vaudou, comme le rastafari, ou comme le pentecôtisme, qui est une sorte de christianisme, chez certains noirs africains. Vous trouvez chez des peuples entrés en contact avec l'Occident, mais sans avoir été colonisés, le culte du cargo en Nouvelle-Guinée. On prie que il nous arrive les mêmes choses que ce que les avions américains apportaient pendant la guerre. Mais toutes ces religions-là sont monothéistes. On n'invente plus de polythéisme. Pour une raison assez simple, c'est que les religions nouvelles naissent le plus souvent à partir d'une religion préexistante qu'elles prétendent réformer. Et ces religions mères sont monothéistes. Les religions, disons, qui fécondent, qui en enfantent de nouvelles, sont monothéistes. Au XIXe siècle, sont nées, à partir du christianisme, la religion des Mormons. Les Mormons se considèrent comme chrétiens, Les autres chrétiens sont plus réservés à ce sujet. À partir de l'islam est née la religion des Baha'is et la religion des Sikhs, vous savez, ces gens enturbanés et abondamment barbus et moustachus. Le fidèle Nazir est certainement un Sikh, pour les amateurs de Blake et Mortimer. Cette religion naît au XVIe siècle de l'hindouisme, avec des emprunts à l'islam, dont le monothéisme. Cette religion est donc une religion monothéiste. Les religions plus récentes, il en est à peu près une tous les 10 ans aux États-Unis. J'ai oublié le nom de la dernière, un nom assez bizarre, enfin la dernière qui a fait parler d'elle. Donc il n'y en a pas que 3. Et même si on suppose que l'on peut délimiter le nombre des religions monothéistes, la vraie question est-elle bien la quantité des dieux ? Il ne s'agit jamais de déterminer le nombre des dieux, si je puis dire, en les comptant. Et on peut se demander, vous vous souvenez que j'avais laissé entrevoir le bout de mon oreille tout à l'heure, on peut se demander s'il n'y a jamais existé un véritable polythéisme ailleurs que dans la polémique de ceux qui l'attaquent. On peut s'aider ici d'Aristote. Aristote distingue dans le livre Delta de la métaphysique, c'est une sorte de dictionnaire de certaines notions philosophiques, il distingue différentes sortes d'unités en prenant comme fil conducteur la question de savoir dans quel cas on dit « c'est la même chose ». Alors, il distingue 4 niveaux. Il y a l'unité par le nombre, ce qui, comme on dit, ne fait pas nombre. Ben, je suis le même que moi. Je suis un seul. On peut être la même chose par l'espèce. Vous et moi, c'est la même chose, parce que nous sommes tous des êtres humains. On peut avoir une troisième façon, un peu plus molle, si je puis dire, de dire c'est la même chose, si l'on se place au niveau non pas de l'espèce humaine, mais du genre, comme le genre animal. Dans ce cas, on dira ben, mon chien et moi, c'est la même chose, puisque nous sommes des êtres vivants. Et puis vous avez la forme la plus relâchée de l'unité, qui est ce qu'Aristote appelle l'analogie. Et il donne comme exemple, un exemple très simple, vous allez voir, les écailles et les plumes, c'est la même chose. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ben, ça veut dire que les écailles sont aux poissons ce que les plumes sont aux oiseaux. Donc on a une analogie extrêmement simple qui va nous permettre de dire, bon ben voilà, c'est pareil. Eh bien, on pourrait dire que toute religion attribue au divin l'un ou l'autre de ces différents niveaux d'unité. Mais aucune religion ne confond le divin avec ce qui n'est pas lui. Aucune religion ne confond le sacré et le profane. Alors une religion peut dire bah, « Dieu est un en tant qu'individu ». Là, vous avez la religion de l'ancien Israël, à partir d'un certain moment qu'il faudrait préciser, puisque Israël n'a pas toujours été monothéiste au sens qu'est le nôtre. J'aurais peut-être à revenir là-dessus. On peut dire « le divin est un » parce qu'il forme une famille. Par exemple, les 12 Olympiens, les dieux grecs, qui sont effectivement d'ailleurs une famille, puisque bon, ben, ils sont frères et sœurs, tous issus d'un même géniteur. On peut dire « le divin est un parce qu'il forme un genre ». Alors là, vous aurez par exemple la religion égyptienne ou la religion indienne, hindouiste. Et puis si vous faites du divin, quelque chose de très vague, vous allez parler du divin au neutre, et vous allez avoir certains aspects de la conception religieuse des philosophes grecs, et même de certains poètes. Le divin, il y a du divin, mais il ne présente pas nécessairement une figure personnelle. La véritable question, plutôt que de savoir combien il y a de dieux, serait plutôt de se demander comment il est un. Quelle est, si vous voulez, une image, quelle est la densité de la substance divine ? Le divin, ou si vous voulez encore une autre image empruntée à la physique, dont je ne connais rien, il y a sans doute des physiciens parmi vous, quels sont les états de la matière divine ? Le divin est-il un gaz parfait, répandu partout ? Vous aurez un panthéisme. Le divin est-il un liquide qui gagne son lieu naturel ? Vous aurez éventuellement un polythéisme, plus ou moins strict. Est-il un mercure qui cherche à se reconstituer, même si les boulettes qu'il forme gardent une certaine indépendance ? Autre manière d'exprimer le polythéisme grec, par exemple. Est-il un bloc soudé à lui-même, soudé à soi-même ? Et c'est en ce seul cas que nous autres parlons, qui appliquons des catégories philosophiques aux phénomènes religieux, parlons de monothéisme. Donc, se demander combien il y a de dieux, en combien de figures le divin cristallise-t-il ? Eh bien, ça suppose qu'on a répondu à la question de savoir comment Dieu est un. Quel est le mode d'unité qui relie le divin à soi-même ? Parce que si vous vous contentez de dire, être un, ça veut dire qu'il n'y en a qu'un seul, que le Dieu est unique, que l'ensemble des dieux ne comporte qu'un seul élément. Ah, si vous dites ça, vous allez tomber sur un paradoxe qui provient d'un fait logique assez simple. Les nombres ne sont pas une propriété des choses. Moi, je ne suis pas un au même sens que je suis, je ne sais pas, chauve, myope, ou blanc de complexion, etc. Je suis un parce que j'appartiens à la classe des unités. Bon, c'est un très vieux paradoxe qui est déjà exprimé chez Platon. L'unité non plus. L'unité, comme tout nombre, n'est pas une propriété de la chose. Elle est une propriété de la classe à laquelle la chose appartient. Donc dire que Dieu est un, ça veut dire qu'il appartient à la classe supérieure des unités. Donc, en croyant, en affirmant l'unité de Dieu, on croit faire de celui-ci quelque chose de suprême. En réalité, on le dévalorise, puisqu'on le subordonne à la classe des unités. Et concrètement, le paradoxe logique, si vous voulez, se traduit dans l'histoire des représentations religieuses par le danger toujours récurrent de subvertir Dieu, ou si je puis dire, de le survertir, d'en sortir par le haut, au profit d'un principe qui serait l'un, un, l'un, un principe qui ne serait rien d'autre qu'un, et qui ne saurait rien faire d'autre qu'être un. Donc on va chercher au-dessus de Dieu quelque chose qui serait encore plus un que l'unique exemplaire du divin qu'il représente. Donc, c'est pour cela que les religions ne se contentent pas, les religions concrètes, pas les religions que fabriquent les philosophes, les religions concrètes ne se contentent pas d'affirmer que Dieu n'existe qu'en un seul exemplaire. Elles disent aussi quelque chose de la façon dont il est un avec soi-même, de ce qui le constitue comme l'unité qu'il forme. Eh bien, Si vous cherchez des attestations concrètes de cette affirmation d'unité qui est au fondement de l'affirmation de l'unicité, hein, c'est parce que Dieu est un qu'il n'y en a qu'un seul exemplaire, vous allez trouver ça relativement tard dans la Bible, relativement tard, enfin, vers moins 550 avant notre ère, bon, c'est pas hier, mais enfin, c'est quand même plus tardif que certaines... plus tardif que certaines couches littéraires de la Bible. Vous allez trouver ça chez le second Isaïe, dans la deuxième partie du livre du prophète Isaïe, les chapitres 40 à 55, qui ont été rédigés de toute évidence juste avant le retour d'exil. Vous vous souvenez que les Assyriens avaient flanqué la pâtée à la petite armée du petit royaume de Judée et avaient emporté à Babylone, alors non pas la totalité du peuple, mais un certain nombre d'otages appartenant à l'élite du peuple. C'était un moyen de gouvernement. On garde les otages sous clé, enfin peut-être pas sous clé, mais enfin, en tout cas sous surveillance, de manière à ce que leurs compatriotes restés au pays se tiennent un peu tranquilles. Et le roi de Perse Cyrus a à son tour flanqué la pâtée aux Assyriens, et lui il avait une autre tactique, un autre procédé de gouvernement qui faisait qu'il gouvernait à travers les élites locales. C'est la indirect rule que les Anglais ont appliquée aux Indes avec quelques succès, en laissant les Maharajas en place et en se contentant de chapeauter tout cela. Le roi de Perse avait une politique analogue et donc il n'avait plus besoin d'otages et il les a renvoyés chez eux. Donc l'élite du pays de Juda est rentrée en Judée. Eh bien, le second Isaïe écrit dans ce cadre, Cyrus a déjà vaincu les Assyriens et on s'attend à ce que les otages reviennent. Et c'est dans ce cadre que l'on trouve pour la première fois l'affirmation de l'existence exclusive d'un Dieu, à savoir bien entendu le Dieu d'Israël. Ce que l'on avait avant, c'était l'exigence d'un culte exclusif, d'une fidélité exclusive au Dieu d'Israël. Mais ce n'était pas l'affirmation de l'existence exclusive de ce Dieu. Bon, il se trouve que je suis monogame, donc il n'existe pour moi qu'une seule femme, mais ça ne veut pas dire qu'il n'existe pas d'autres femmes dans le monde. Eh bien, la religion primitive d'Israël était une sorte de monogamie avec le Dieu d'Israël. D'ailleurs, l'image du mariage est constante chez les prophètes, hein, qui reprochent constamment au peuple d'avoir des petits amis en la personne des dieux de Canaan, enfin, bon, de tromper donc l'époux divin d'Israël. Eh bien, on passe de cette affirmation donc d'une liaison exclusive, d'une alliance exclusive avec Dieu, à l'affirmation d'un Dieu tel qu'il n'y en a pas d'autre. Alors, vous trouvez ça à plusieurs reprises dans la seconde partie du livre d'Isaïe, mais d'une manière intéressante, vous trouvez cette affirmation de l'existence exclusive du Dieu d'Israël, mais jamais seul. Jamais seul. Vous ne trouvez jamais des formules du genre « Je suis le seul Dieu, il n'y en a pas d'autre que moi, obéissez-moi » et pas un autre, puisqu'il n'y en a pas d'autre. Les formules sont telles que... le Dieu qui revendique donc l'exclusivité, non seulement l'exclusivité du culte, mais l'exclusivité de l'existence, apparaît comme le créateur de l'ensemble de la nature et l'agent exclusif, en dernière instance, de l'histoire. Et c'est une action historique qui se déploie comme une action de salut. Le Dieu qui se dit unique est unique parce qu'il est le seul sauveur. Donc ça n'est pas un Dieu qui réclame pour lui l'exclusivité, enfin le par ici la bonne soupe exclusif, mais c'est un Dieu qui manifeste son unicité par une sorte de fidélité à soi-même, si je puis dire. De fidélité à soi-même comme permanence dans l'action, et une action qui est réglée par la fidélité, une seconde fidélité, mais qui coïncide avec la première, une seconde fidélité envers le peuple de l'Alliance. Il n'y a d'autre Dieu que moi, ça veut dire je suis le seul qui vous sauve. Ça ne veut pas dire je suis le seul qu'il faut que, devant lequel il faut que vous vous écrasiez, si je puis me permettre. Eh bien, c'est peut-être cette façon d'être un, par fidélité à soi-même, qu'exprime une formule au fond très mystérieuse, sur laquelle on a déjà écrit des rames de papier entières, à savoir la fameuse présentation que Dieu fait de lui-même au chapitre 3 de l'Exode. Vous savez, cette phrase que l'on traduit par « Je suis celui qui suis », qu'on pourrait traduire d'ailleurs aussi bien par « Je serai celui que je serai », puisque l'hébreu ne distingue pas à l'époque entre le présent et le futur, c'est ce qu'on appelle un inaccompli en termes de grammaire sémitique. Eh bien, si l'on choisit justement la traduction sans doute philologiquement la plus probable par un futur, hein, « je serai celui que je serai », ça veut dire « je serai toujours avec toi hein, ». Je serai dans le parcours postérieur de l'histoire le même que celui qui s'apprête dès maintenant à te tirer de la captivité. Cette affirmation du nom de Dieu précède immédiatement et cause la délivrance du peuple de la captivité, non pas à Babylone, mais en Égypte. Donc, je serai celui que je serai, ça veut dire que je serai constamment le même libérateur. Ce qui est quand même beaucoup plus que de dire, il n'y en a qu'un seul. Dans l'Ancien Testament, eh bien, la manière dont Dieu est un avec lui-même, c'est justement cette fidélité avec soi à l'intérieur d'une histoire de salut. Dans le christianisme, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, vous avez la doctrine de la Trinité. Et la doctrine de la Trinité n'est pas une forme de monothéisme moins stricte qu'une autre. Je trouve d'ailleurs la formule que l'on emploie parfois pour parler, je ne sais pas, mettons du judaïsme et de l'islam comme de monothéisme strict, je trouve cette formule parfaitement bouffonne. Qu'est-ce que c'est qu'un monothéisme strict? Essayez de vous représenter ce que serait un monothéisme pas strict, dans lequel on dirait il n'y a qu'un seul Dieu, ou à peu près. Hein, il y a le nombre de dieux, c'est 1, virgule et des poussières. Bon, il suffit de se représenter ça pour voir l'absurdité de la formule. Il n'y a pas de monothéisme strict, de monothéisme mou, il n'y a pas de monothéisme relâché, il n'y a pas de monothéisme coulant comme un camembert. Non, il y a un monothéisme. Bien, ça, les mots veulent dire quelque chose, ou bien, bon, il ne peut pas y avoir de monothéisme plus strict qu'un autre. Il y a simplement des monothéismes qui expliquent la manière dont Dieu est un de façon différente. Alors, ce que l'on appelle la Trinité, et dont les théologiens ont toujours dit que ça ne devait pas être interprété en un sens numérique. Le 3 de la Trinité n'est pas entre 2 et 4. C'est la manière d'expliquer que Dieu est un par lui, est un par l'accord dans la charité des hypostases, ce que les théologiens appellent les hypostases, puisque quand on dit personne, c'est tout de suite plus difficile à ne pas confondre justement avec une personne comme nous. Donc l'unité est réalisée par l'accord dans la charité des hypostases de la substance divine. La Trinité n'est pas une manière d'atténuer le monothéisme, contrairement à ce que certains pères de l'Église, mal inspirés, car il arrive qu'ils le soient, disent parfois. Vous trouvez chez certains pères de l'Église l'idée suivant laquelle la Trinité, ça serait ni trop ni trop peu. On n'a pas trop de dieux comme ce grouillement de divinité dans le paganisme, mais on n'a pas non plus un seul dieu d'un seul bloc comme dans le judaïsme. C'est une représentation qui me semble totalement à côté de la plaque. La Trinité, ça n'est pas une manière de nuancer l'unité, c'est une manière d'expliquer comment cette unité se fait. Dans l'islam, là aussi, on a une conception de l'unité de Dieu par continuité avec soi et par ce qu'il est, pour ainsi dire, mais dans ce pour ainsi dire, il y a plus qu'une image, d'un seul bloc. Il semble bien que c'est une représentation de ce genre qui soit à l'arrière-plan d'une sourate très célèbre du Coran, la sourate 112, sourate très brève, qui est une sorte de confession de foi, dans laquelle il est dit que Dieu est un, qu'il n'engendre pas et qu'il n'est pas engendré. Et dans ce contexte, donc, c'est probablement une réponse au dogme chrétien de la Trinité tel que l'on se le représentait dans l'Arabie du 7e siècle. Et dans ce contexte apparaît un adjectif que l'on traduit tant bien que mal par l'impénétrable. C'est comme ça dans la traduction du Coran dont je me sers le plus souvent. C'est une édition bilingue, donc c'est très commode. Donc c'est la sourate 112, je vous l'ai dit, que l'on appelle le culte pur, enfin l'ikhlas, bon, traduisez comme vous pouvez. Bon, cet adjectif obscur, dont les plus anciens commentateurs ne connaissaient pas le sens, de manière à ce que les dix commentateurs avaient recours à des conjectures, ils disaient, bon, ça doit peut-être vouloir dire ça, mais on n'est pas très bien sûr. Ces conjectures ont été ensuite assez canonisées, si vous voulez, par l'interprétation habituelle, et ils expliquent que Dieu est comme continu, il est sans faille, ou, si je puis jouer un petit peu sur les mots, il est sans paille, comme on parle d'une paille dans un morceau de métal forgé. Donc, quand il y a un défaut, on dit qu'il y a une paille dans le bloc métallique. Bon, ben là, le Coran dit peut-être, si l'interprétation devenue traditionnelle est la bonne, que Dieu est sans paille, d'un bloc, d'un seul tenant, comme je l'ai dit. On a donc, pour ne rester qu'à l'intérieur des fameux trois monothéismes, dont je pense qu'ils sont en fait beaucoup plus nombreux, mais enfin, si on ne garde que ces trois-là, eh bien, on voit que le monothéisme n'est un élément commun que d'une manière extrêmement vague. que il n'est un élément commun entre les trois monothéismes, entre guillemets, en question, que lorsqu'on en reste à la question tout à fait élémentaire de savoir combien il y a de dieux. Question qui n'est, je le répète, à peu près jamais vraiment posée. En revanche, tout le reste, tout ce par quoi les religions concrètes expliquent la façon dont leur Dieu est un, varie. Ce qui fait que le monothéisme est entre les trois religions plutôt un critère distinctif qu'un élément commun. Vous vous souvenez de la vieille plaisanterie de Churchill disant que l'Angleterre et les États-Unis étaient divisés par une langue commune. On pourrait, mutatis mutandis, dire la même chose de nos fameux prétendus trois monothéismes. Et historiquement parlant, les trois religions ne se reconnaissent pas les unes les autres comme monothéistes sans difficulté. Bon, le christianisme reconnaît le monothéisme du judaïsme. Chrétien, je ne connais pas de chrétien disant que les juifs sont polythéistes. Le judaïsme a plus de mal à lui rendre la politesse et à reconnaître que le christianisme est une religion monothéiste. Maïmonide, qui est un de mes préférés, un de mes chouchous. Maïmonide, bon, peut-être le plus grand penseur du judaïsme médiéval et peut-être même du judaïsme tout court, reprochait encore aux chrétiens de faire de Dieu le troisième de trois. Le troisième de trois. C'est d'autant plus amusant que c'est une formule du Coran. Vous avez un juif au XIIe siècle qui cite, peut-être sans le savoir, c'est une formule qui est devenue proverbiale, mais qui cite un passage du Coran pour reprendre la critique du christianisme, que faisait l'islam, et qu'il reprend, sans peut-être le savoir, à son compte. Et ce n'est en gros qu'à partir du début du XIVe siècle que l'opinion dominante dans le judaïsme est que les chrétiens ne sont pas des idolâtres. Ça, c'est un rabbin de Perpignan. Oui, Perpignan, là où il y a la gare, le centre du monde, hein, qui s'appelait Menachem HaMeiri, mort en 1315, qui explique qu'on peut très bien acheter son vin chez les chrétiens, parce qu'ils ne sont pas idolâtres. C'est une question tout à fait pratique, une question de vie quotidienne, de commerce en l'occurrence, mais on n'a pas le droit donc de commercer avec des idolâtres, surtout si c'est du vin, parce que le vin peut être utilisé dans des rites obscurs, on ne sait pas trop. Bon. Et lui dit, ben non, les chrétiens sont des monothéistes, donc on peut leur acheter leur pinard. Le judaïsme reconnaît le monothéisme des musulmans. Une fois dissipé un malentendu sur le culte rendu à la Mecque, à la Kaaba, ce petit temple cubique. En effet, il y avait des juifs qui disaient, bah, regardez, ces gens-là, ils adorent la pierre noire qui est enchâssée dans le mur de la Kaaba, donc ce sont des idolâtres, etc. Maïmonide en particulier, toujours le même, a expliqué non, pas du tout, c'est pas de l'idolâtrie. Et il a bien raison. L'islam reconnaîtrait sans peine le monothéisme des juifs si le Coran ne leur reprochait pas justement d'associer à Dieu un mystérieux personnage que le Coran nomme Uzair. Bon, C'est dans la 9e sourate, verset 30. Comme vous le savez, pour l'islam, le péché capital, celui qui ne sera pas pardonné, c'est d'associer à Dieu d'autres êtres que lui-même. Alors ces autres êtres peuvent être les divinités de l'Arabie pré-islamique, la grande divinité féminine Allat, ça peut être aussi Jésus, et dans un passage du Coran, c'est même Jésus et Marie. Il y a une conception de la Trinité, il y aurait Dieu, Jésus et Marie. Alors pour les Juifs, il y a justement en parallèle avec le reproche envoyé aux chrétiens d'associer Jésus à Dieu, le fait que les Juifs associeraient à Dieu Osir. Alors qui est ce Osir? On ne sait pas trop. Est-ce que c'est Esdras, l'auteur du livre d'Esdras, enfin le scribe persan, vous voyez, mettre un petit peu d'ordre en Judée, justement au retour de l'exil? Est-ce que ça serait le nom d'un ange déformé? Bon, il y a un Ouziel, bon, peut-être ce serait ça, on ne sait pas trop. Le christianisme, de son côté, considère aujourd'hui le caractère monothéiste de l'islam comme une évidence. Il n'en a pas toujours été ainsi. Jean Damascène, qui écrivait au 8e siècle et qui était membre d'une famille de grands administrateurs, de hauts fonctionnaires de l'Empire islamique, donc qui connaissait de première main les musulmans, reproche aux ismaélites, c'est la manière dont il appelle les musulmans, le mot islam, le mot musulman n'apparaît pas dans ces textes en grec, il dit les ismaélites, donc les descendants d'Ismaël, l'autre fils d'Abraham, eh bien, il leur reproche exactement ce que certains juifs auxquels j'ai fait allusion reprochaient à l'islam, à savoir d'adorer la pierre noire de la Kaaba. Et ça, pour rétorquer à l'accusation que les musulmans adressaient aux chrétiens d'adorer la croix, donc d'adorer un objet, mais d'adorer une idole matérielle. Quant à la littérature populaire du Moyen-Âge occidental, eh bien, comme vous le savez, on voit dans la chanson de Roland que les adversaires des gentils, donc les méchants, adorent Mahomet et puis deux autres personnages, Tervagan et puis un autre, je ne sais plus des noms, je ne sais pas trop d'où ils viennent, comme si les musulmans adoraient Mahomet, ce qui est déjà une erreur, et comme s'ils adoraient d'autres divinités à côté de lui. Là, on est vraiment au niveau de la représentation populaire la plus bête, hein, faut bien le dire. Et alors si on regarde le christianisme d'aujourd'hui considère l'islam comme monothéiste, sans autre forme de procès, il n'en a pas toujours été ainsi dans le passé. Du côté musulman, il y a bien des musulmans qui admettent que les chrétiens ne sont pas polythéistes, mais bon, il y a quand même dans le Coran des formules qui les accusent d'associer à Dieu soit des moines, les chrétiens font des moines les égaux de Dieu, en leur accordant la même autorité, voire, j'y ai déjà fait allusion, Jésus et sa mère qui composeraient avec Dieu une trinité dont le christianisme n'a jamais entendu parler. En conclusion, je vais donc m'arrêter là. Parler de religion comme étant monothéiste ne fait pas entrer très avant dans la compréhension de celle-ci, ça ne nous aide pas vraiment à comprendre ce dont il s'agit. Il faut encore se demander quel modèle de l'unité du divin y est en jeu et quelles sont les conséquences de l'application de ce modèle. En d'autres termes, à quoi ça sert d'affirmer l'unité divine? Telle est sans doute la vraie question. Bon, je vous remercie. On peut parler trois quarts d'heure. Hein.